On va ouvrir maintenant un débat délicat, un débat qu'il faudra évidemment, dont il faudra faire attention, puisque le risque d'amalgame est grand. On veut parler évidemment des agressions du Nouvel An à Cologne, qui continue de scandaliser l'Allemagne et de mobiliser les enquêteurs. La police fédérale allemande a annoncé aujourd'hui avoir identifié 31 suspects, et 18 d'entre eux sont des demandeurs d'asile, algériens, marocains ou syriens. Tous sont donc soupçonnés d'avoir participé aux violences sexuelles qui ont visé plusieurs dizaines de femmes le soir de la Saint-Sylvestre. Des agressions qui ont provoqué l'émoi partout en Europe, d'autant que des situations similaires ont été constatées à Hambourg, à Helsinki en Finlande, mais aussi ici, en Suisse, à Zurich. Alors beaucoup d'inconnus subsistent encore à ce stade. Le profil des auteurs, leur but, le lien aussi entre les différents cas. Tout cela doit encore être éclairci. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'en Allemagne, le débat sur les migrants est relancé, avec de fortes craintes exprimées notamment au sein de la population féminine, indépendamment de son orientation politique, face à l'arrivée en grand nombre de réfugiés originaires du monde musulman. Alors, ces craintes sont-elles fondées ou est-ce qu'elles sont exagérées ? On en débat ce soir sans tabou avec deux femmes, Miret Zaki, Cécila Amarel. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Alors Miret Zaki, vous êtes rédactrice en chef de Bilan. Cécila Amarel, vous êtes conseillère nationale socialiste vaudoise. Alors je vous propose d'abord rapidement de revenir sur ces incidents de Cologne, mais j'insiste, le débat ne porte pas sur ces cas-là, puisque les craintes dont on parle de la population féminine, d'une part de la population féminine face à l'afflux de réfugiés, c'était une crainte qui s'exprimait déjà avant ces cas de violence. Tout de même, sur ces incidents-là, Cécila Amarel, on ne va pas, je le disais, débattre vraiment là-dessus. Un mot tout de même, que vous inspirent ces événements et quelle réponse attendre du gouvernement allemand ? Est-ce que le gouvernement doit insister sur la nécessité de ne pas faire d'amalgame, de ne pas exagérer ou de ne pas croire que tous les demandeurs d'asile, évidemment, sont des hommes violents qui pourraient passer potentiellement à l'acte ?
Alors je dirais tout d'abord que évidemment on est tous sous le choc de ces actes qui sont innommables. Maintenant il faut attendre véritablement les conclusions de l'enquête avant de tirer des conclusions définitives. Probablement que ce que la police va dire, c'est qu'il y avait dans le cadre de ces actes des requérants d'asile, et dans ce cadre-là évidemment que le droit pénal va s'appliquer parce qu'il s'applique à tout le monde et que dans la mesure du possible, une fois que les personnes auront écopé leur peine, eh bien, elles devront être expulsées. Il s'agit de crimes graves, donc il faut évidemment que le code pénal s'applique et que les personnes puissent être expulsées dans la mesure du possible. Quand on parle d'Algériens, de Marocains, le problème n'est pas lié à des interdictions de droits fondamentaux de les expulser, c'est surtout lié au fait que l'Allemagne, comme la Suisse d'ailleurs, a des mal à obtenir en fait des laissez-passer pour pouvoir atterrir sur le sol marocain ou algérien et pouvoir déposer les personnes en question.
Miret Zaki, vous avez été, vous, choquée du traitement médiatique dont ces incidents ont fait l'objet. Pourquoi ?
Parce que il me semble qu'il faut vraiment d'abord avoir des vrais éléments d'enquête, savoir exactement si par exemple il y a une organisation là derrière qui s'est occupée de synchroniser tous ces actes, comme ça a été fait apparemment. Qui sont ces gens ? Quelles sont leurs motivations ? Effectivement, on a affaire à une entreprise apparemment destinée à semer la haine raciale peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas le résultat clair et évident, c'est que maintenant on a une communication aussi de leur part qui est très très curieuse de venir dire voilà, je suis un migrant syrien, voilà, vous m'accueillez et moi je déchire la carte de séjour, je viole les femmes, je vous découpe en morceaux, enfin j'exagère, mais c'est un petit peu comme une entreprise de diffamation quasiment par rapport aux migrants, mais on ne sait pas qui est derrière, on ne se pose pas vraiment, est-ce que l'enquête va vraiment donner quelque chose de concret ? Là, on est tout de suite en train de sauter à pieds joints à des conclusions, de dire voilà, les migrants vont arriver sur notre sol, et évidemment la première chose qu'un migrant fait quand sa vie est en ruine, c'est de s'organiser avec d'autres migrants pour agresser sexuellement des femmes, alors que dans le pays d'accueil auquel il est fortement obligé et qu'il est à la merci de ce pays, alors que la plupart de ces migrants sont évidemment plutôt des gens effrayés, terrorisés, même parfois ils savent qu'ils viennent dans une terre qui leur est hostile. L'opinion ici est déjà très très préparée à ce genre de stigmatisation, et il y a eu des attentats sur sol européen plusieurs fois, et donc c'est un moment explosif, et imaginez que ce soit un migrant au niveau individuel puisse lui-même concevoir des actes pareils, c'est totalement irrationnel et absurde.
Alors, Mireille Zaki, on vous a bien compris, il faut être très prudent face à ces événements de Cologne, se garder justement des amalgames. Cela dit, il y a des craintes qui s'exprimaient bien avant ces événements-là, bien avant le 1er janvier en Allemagne et en Europe, d'une manière générale, face à l'arrivée importante de migrants originaires du monde musulman. Alors, il faut en débattre aussi, hein, puisque ces craintes existent.
Bien sûr, il faut.
Notamment parce que les rapports, justement, hommes-femmes ne sont pas les mêmes en Europe que dans le monde musulman.
Absolument.
Est-ce que, selon vous, Mireille Zaki, ces craintes, encore une fois, qui touchent des femmes, d'ailleurs de toute opinion hein, politique, qu'elle soit de gauche, de droite, est-ce que ces craintes vous semblent justifiées ?
Alors ces craintes sont non seulement justifiées, mais elles doivent être comprises et écoutées, mm-hmm. parce que moi j'ai grandi en Égypte, dans un pays qui s'est radicalisé au niveau religieux ces dernières années, mais c'est pas seulement l'Égypte, c'est tout, finalement tous les pays arabes, l'identité musulmane s'est vraiment complètement transformée ces dernières années. Je suis de mère musulmane et de père chrétien, mais les deux sont laïcs, mais j'ai vu la transformation radicale de la culture de ces pays vers un intégrisme et un rapport à la femme qui a fondamentalement changé. Et même dans ces pays, on sait que le harcèlement sexuel est quelque chose de fréquent et qui, voilà, ces dernières années, qui a augmenté. Il y a eu des plaintes en Égypte aussi de femmes victimes régulièrement de ce genre de comportement. Donc il faut clairement, sans tabou, se dire, voilà, l'arrivée de migrants qui peuvent être dans des situations un petit peu des hommes jeunes, seuls, même d'ailleurs les Italiens avant eux, les Portugais, les oui. Albanais, était dans des situations pareilles, il faut se poser la question. Quand on arrive et qu'on est seul et qu'on est sans sa famille, etc., ouais. Qu'on soit musulman ou pas, déjà, il y a un risque. Mm-hmm. On n'est pas satisfait de sa vie. Et puis, maintenant, on a la culture de ces gens qui les prédispose peut-être à être un petit peu dans une tension avec les femmes occidentales sur lesquelles ils jettent un regard relativement mm-hmm. négatif.
Cézla Marel, il y a un fossé culturel, le constat est juste ?
Disons, depuis, c'est vrai, on a constaté depuis la crise migratoire de 2011, hein, qui concernait essentiellement les Tunisiens, qu'il y a effectivement un effort à faire pour expliquer ce que l'acquisition de connaissances sur l'environnement social et le mode de vie suisse, sur le système juridique suisse, sur les normes, les règles de base, les conditions aussi sine qua non d'une cohabitation sans difficulté. Ça, c'est des choses qu'il faut qu'on explique. Et surtout, au-delà de l'explication, il faut que les gens comprennent qu'il y a des limites et qu'il y a des choses sur lesquelles on demande véritablement un effort en fait d'intégration. Parce qu'on n'est pas ni dans un système assimilationniste en Suisse, ni dans un système multiculturel. On est entre deux, si vous voulez. Donc, on négocie de manière continue l'acceptation des différences et puis l'exigence en fait de certaines indifférenciations.
Alors,
et donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'il faut que le politique aussi dégage des moyens parce que on
parle. Alors justement, quels moyens ? C'est ça la question maintenant que j'aimerais aborder avec vous deux, le défi de l'assimilation ou le défi de l'intégration. Quelles solutions ? Est-ce que les programmes d'intégration suffisent ? Qu'est-ce que vous en pensez, Cézla Marel ? Est-ce qu'il faut améliorer ? Est-ce qu'il faut faire comme, par exemple, une députée socialiste balloise, hein, Sylvia Schenker, qui le prévoit de déposer une interpellation pour mettre en place des cours pour les demandeurs d'asile, pour les sensibiliser en quelque sorte justement au rapport homme-femme ? Est-ce que c'est une bonne piste, Cézla Marel ?
Mais si vous voulez vous parler d'intégration des requérants d'asile, il n'y en a pas réellement. Hein. Je veux dire, tous les programmes cantonaux d'intégration concernent au mieux, si vous voulez, les admis provisoires et les réfugiés reconnus, mais les requérants d'asile, je veux dire, on dégage à peu près 115 millions dans la politique d'intégration, mais c'est pas pour les requérants d'asile. Niveau de la loi sur l'asile, il y a uniquement des programmes d'occupation.
Et mais donc, ça serait, est-ce que ça serait clair, bien de le faire ?
C'est clair, c'est tout à fait clair qu'aujourd'hui, on a un changement de donne parce que les requérants d'asile, si vous voulez, il y en a, et notamment les Syriens, dont le taux d'acceptation de l'asile est extrêmement fort, il faudrait changer de dynamique et puis intégrer ces personnes au plus vite, leur mettre en place des programmes de prévention aussi, des programmes d'explication des connaissances et des modes de vie suisses, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Hein. Ouais. On n'a que des programmes d'occupation, on n'a pas des programmes d'intégration. Et puis surtout, je dirais qu'il faut aller bien au-delà de ce ce projet de programme concernant la mixité et concernant
mais pourquoi
le...
pas finalement
mais oui mais c'est pas suffisant
non,
c'est
sans
tout
doute.
À fait clair qu'aujourd'hui il faut aller comme
mais est-ce que c'est déjà une bonne piste concrète
c'est une piste mais au Québec par exemple vous avez on parle justement dans le domaine de l'asile la restructuration on aura des centres de procédure où il faudra directement que le service de l'emploi que les services d'intégration soient déjà dans ces bâtiments pour faire en sorte que l'intégration se fasse au plus vite parce qu'aujourd'hui on n'a pas du tout cette culture-là en Suisse.
D'accord. Mireille Zaki, comment s'y prend-on pour amener les réfugiés à, je dirais, embrasser nos valeurs d'égalité homme-femme?
Alors, déjà, en dehors de tout ce qui est un peu court théorique où on sensibilise et on explique qu'à mon avis, l'efficacité, elle est peut-être relative, hein, puisqu'il y a des problèmes peut-être de langue et il y a aussi des convictions très fortes personnelles, au plan personnel. Il y a peut-être une vraie réflexion à avoir sur tout ce qui concerne au plan, leurs besoins pour les rendre plus... rendre leur vie peut-être plus équilibrée. Et donc après, si on commence à dire voilà, il faut des solutions qui leur permettent de fonder une famille, d'avoir des femmes, d'avoir des activités qui leur permettent un peu de canaliser leur énergie.
Mais est-ce que c'est au pouvoir public de jouer des entremetteurs?
Après tout ça, oui, alors après, si on dit il faut leur amener des femmes, évidemment, il y aura un tollé, tout le monde va dire déjà on est sur un terrain d'une opinion qui est relativement hostile à l'accueil de réfugiés. En plus, ça va coûter tout ça.
Exactement.
Et alors là, ça m'amène à la réflexion suivante, c'est que toutes ces dernières années, au lieu d'être vraiment, surtout en France, je pense, axé sur une politique d'intégration, on a surtout coupé dans les budgets du social, de l'éducation, de la recherche, et maintenant on est encore plus en train de couper dans ces budgets et de réallouer à des budgets de défense, de police et de surveillance, et ces prochaines années, ça va être encore beaucoup plus le cas. Donc il faut bien se rendre compte que ça ne va pas arriver. On n'est pas du tout maintenant dans une logique de politique d'intégration et d'insertion et d'assimilation. On n'a pas les moyen de ça, et la population semble vraiment très très réticente.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire cause perdue, quoi?
Non, mais je pense qu'il faut maintenant dire attention, toute cette réallocation de budget vers la police, la défense et la surveillance, ça va nous éloigner complètement des politiques d'insertion qui allaient, au contraire, prévenir les problèmes, les tensions, voire les attentats. Et en même temps, vous dites que ces programmes,
leur efficacité, c'est limité, hein, en parlant des relations hommes-femmes, parce que c'est tellement inné, si j'ose dire, dans leur éducation. Donc vous aviez l'air de dire
Je vous imaginais parler de cours de théorie, ils sont assis dans une classe et on est en train de les expliquer comme l'éducation civique ou l'éducation routière, etc.
Je pense
qu'il faut plus qu'ils se mélangent à la population et qu'ils ne soient pas dans des ghettos comme les Italiens, les Portugais en leur temps. D'ailleurs, on avait dit, ils ont été ghettoisés, pourquoi ils ne se mélangent pas à la population? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à avoir les moyens de les assimiler mieux que ça avec la population pour qu'ils intègrent simplement les habitus, les modes de vie, même s'ils doivent repartir dans leur pays après? Est-ce qu'on est prêt à faire cet investissement-là?
Merci beaucoup Mireille Zaki, merci également à vous Cécile Marel de cet échange de points de vue. C'est un vaste chantier, un vaste débat qui va sans doute évidemment se poursuivre ces prochaines semaines, ces prochains mois, voire ces prochaines années. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.